En fait, je crois que je me rendais même pas trop compte de la difficulté. Parce que quand je disais aux gens, je vais faire la traversée de l'Atlas, ah ouais, c'est quoi? À peu près 280 km, 13 000 des plus, ça c'était le projet. Ah ouais, quand même, et tu fais ça combien de temps? Une semaine. Ah ouais. Et moi, je me rendais pas compte, en fait. Moi, je voyais surtout que je partais me balader en montagne, découvrir une région de l'Atlas que je connaissais pas. Et j'étais super impatiente de découvrir ce coin-là. Et surtout dans ces conditions, finalement, le fait de n'être que deux, ça nécessitait qu'on soit vachement plus autonome tout au long de la journée. C'était vraiment une aventure avant tout, sportive bien entendu, et puis une aventure qui sera forcément jalonnée de rencontres et d'expériences et d'aléas et l'aventure, quoi.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Solène Guérin. Solène a découvert le trail il y a 4 ans seulement. Ses baskets l'ont inlassablement menée depuis sur de nombreux sentiers, déserts et autres montagnes. Résolument indépendante, adepte de grands espaces et de moments de déconnexion, ou plutôt de reconnexion, Solène a développé un attachement tout particulier au Maroc. Elle s'est ainsi lancée à l'automne dernier dans un projet ambitieux de traversée du Haut Atlas. Une traversée de 250 km qu'elle devait entreprendre en groupe avant que le Covid n'en décide autrement et ne l'oblige à revoir ses plans. Je vous invite à plonger avec Solène et moi dans cette course épique particulièrement dépaysante sur le toit de l'Afrique du Nord. Mais je ne vous en dis pas plus. Solène va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Atlas de cœur. Bonjour Solène et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis absolument ravi d'échanger avec toi.
Salut Guillaume, ça va ?
Ça va pas mal, écoute. Ouais. Je pars en Auvergne demain, tu vois, pour 3 jours avec mon fils.
Ah, génial.
Vivre la grande aventure.
C'est une région, région. Ouais, c'est une région qui est superbe. J'ai eu l'occasion d'y aller à quelques reprises. C'est top.
Ouais, on a dit le plus grand bien, donc je tente l'expérience. Solène, tu as participé il y a un mois au Marathon des Sables, autre ambiance que l'Auvergne, sur lequel j'ai le plaisir de faire ta connaissance. Cette course, c'est une aventure humaine profondément marquante, j'ai pu le constater. Petite question inaugurale rapide pour toi, combien de fois par jour tu penses encore au Marathon des Sables en ce moment ?
Tous les matins quand je regarde mes pieds.
que j'ai encore ah oui, t'as des souvenirs encore ?
J'ai encore un ou deux souvenirs sur un ou deux ongles qui devraient me suivre quelques semaines, je pense. Après, pour le reste, c'est en fait, j'y pense encore tous les jours pour plein de raisons. Déjà parce que c'est une course formidable qui marque les esprits, je pense, pour de longs mois, voire de longues années. En tout cas, je parle pour moi.
Je confirme pour moi, en tout cas.
J'y pense aussi parce que j'ai eu la chance de quitter cette belle aventure avec un trophée qui est chez moi, qui est dans mon salon. Donc, je le vois également tous les jours et c'est un chouette souvenir.
Une 3e place par équipe, on peut le dire.
Exactement.
Et une 13e place en individuel, femme.
Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, c'est des beaux souvenirs.
Une satisfaction sportive au-delà de l'expérience humaine.
Ouais, tout à fait. Même si l'objectif, c'était pas de revenir avec un trophée forcément, mais
on le prend. C'est dans ce sens-là, c'est plutôt une bonne surprise.
Exactement.
Solène, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Qui es-tu ?
Alors, donc, je m'appelle Solène Guérin. Ouais, j'ai combien de temps ? Non, je serai assez brève. Je m'appelle Solène Guérin, j'ai 41 ans. Je suis nantaise, je vis toujours dans la région nantaise. J'ai eu l'occasion de vadrouiller à certaines périodes de ma vie, mais je suis revenue dans ma région natale il y a maintenant une dizaine d'années environ. Et j'ai un petit garçon de 8 ans et demi qui est avec moi la plupart du temps. Voilà. Et je cours depuis pas si longtemps que ça. En réalité, je cours depuis, 7 ans. Mais ça fait 3 ans et demi que je fais du trail et que je cours plus de 20 ou 30 kilomètres, quoi.
Tu vas nous raconter tout ça. Et tu bosses dans quoi ?
Je travaille dans une banque. Je suis employée de banque.
Solène, est-ce que tu peux nous parler de ta relation au sport quand tu étais enfant, puis ado ? Est-ce que c'était très présent dans ton environnement familial ?
Alors, dans ma famille, plus ou moins. Enfin, ma mère était quelqu'un, enfin, elle est encore quelqu'un d'assez actif, qui a toujours beaucoup marché de mémoire. Elle courait aussi un peu avec des collègues de travail le midi. Mon père, lui, il était aussi pas mal investi dans la vie associative sportive de la petite commune où j'ai grandi. Après, moi, le sport, ça a toujours fait partie de mon quotidien. Enfin, l'activité sportive plus que l'activité physique plus que le sport à proprement parler. Je me rappelle toute petite avoir appris à marcher et marcher beaucoup avec la personne qui me gardait. Et puis moi, je passais mon temps dehors à courir, à me balader avec mon chien en campagne, quoi. J'ai commencé l'équitation très tôt et c'est un sport que je pratique toujours. Alors maintenant de façon un petit peu plus occasionnelle, mais j'ai eu des chevaux et j'ai vraiment fait l'équitation.
C'était ton sport de cœur à l'époque ?
Ouais. Pendant 20-25 ans, c'était vraiment mon sport, quoi. J'y allais 2, 3, 4 fois par semaine, voire plus. Quand j'étais petite, j'avais des posters de chevaux partout dans ma chambre. Voilà, je me suis essayée à la gym, je me suis essayée au tennis. Ça a toujours été plutôt des activités quand même de plein air que j'ai préféré faire, vélo, etc. Et plutôt des sports individuels, clairement les ballons, je sais pas quoi en faire. Dans une équipe, je sais pas où me mettre. Voilà.
Solène, tu es venue assez tardivement à la course à pied, tu nous l'as dit. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte la course à pied a fait éruption dans ta vie ? Est-ce que tu as le souvenir d'un élément déclencheur ?
Pas spécialement. Alors vraiment, quand je me suis dit « allez hop, je vais courir », c'était peut-être un an et demi après la naissance de mon fils, où je me disais, il y avait une petite boucle de 3 km autour de chez moi et je m'étais dit « allez, aujourd'hui, je suis motivée, je fais la boucle en courant sans m'arrêter ». Et puis, en discutant justement avec des amis du centre équestre où j'allais régulièrement, dans ce petit groupe-là, il y avait un ami qui courait, lui, de façon régulière, qui était marathonien, qui m'a dit « Écoute, Solène, le lundi soir, on est 5-6 à courir ensemble. Si tu veux, joins-toi à nous, il y a tout niveau. » Donc, j'ai commencé avec eux et puis, en fait, ça m'a bien plu. Il nous a initiés au fractionné. Donc j'ai trouvé ça plutôt chouette. Donc voilà, je courais avec eux le lundi soir, des fois une seconde fois dans la semaine toute seule. Et puis comme ça se passait bien, cet ami m'a dit « bah écoute, à côté de chez toi, il y a une asso, tu devrais les rejoindre ». Donc voilà, je suis allée courir dans une asso et puis j'ai fait un 5 km avec des copines. Tranquille. J'ai du mal à faire du tranquille, moi, en fait, quand il s'agit d'une compète. À chaque fois, avec les copines, on dit « allez, on court ensemble ». Et puis, en fait, une fois que le départ est donné, moi, je pars pleine balle.
T'as une âme de compétitrice.
Un petit peu, ouais. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait un 10, j'ai fait un semi. Bon, voilà, c'était vraiment très, très récréatif, quoi. C'était quand j'avais du temps. Et puis, parallèlement à ça, ça faisait déjà quelques mois, voire quelques années, que j'avais très très envie de retourner dans le désert, un endroit que j'avais eu l'occasion de découvrir étant beaucoup plus jeune avec mes parents. Et un jour, par hasard, sur un réseau social, j'ai vu une communication d'une personne qui s'appelait Nathalie Mauclair qui organisait un stage de trail dans le désert. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa.
Pas mal. Après, sur le papier, effectivement.
Ouais, alors moi, je connaissais rien ni au trail, ni à la course à pied, ni à rien du tout. Donc, j'ai écrit et puis j'ai demandé quel niveau était requis pour participer. On m'a répondu qu'il fallait être capable de courir à peu près 15 bornes et puis qu'il fallait être capable d'enchaîner 2, 3, 4 jours de course à pied d'affilée. Donc, bah, je me suis testée sur 15 bornes, ça l'a fait. Je me suis inscrite, mais alors je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Et puis, bah, en fait, ce stage-là, c'était mes premiers pas de trail, finalement. Alors, hyper bien encadré, pour le coup, avec...
belle référence,
Nathalie voilà, Mauclair. Avec donc, Nathalie Mauclair et puis Lucine Agdar, qui était aussi présent pour nous faire découvrir le trail dans le désert et le désert, puisque c'est vraiment sa spécialité et son quotidien. Voilà, donc j'ai commencé comme ça à courir ailleurs que sur la route.
Et ce choix du désert, il est délibéré ou est-ce que si tu avais vu le même type de stage encadré en montagne, c'est quelque chose que tu pourrais faire ou enfin, tu aurais pu faire ou c'était vraiment l'appel du désert qui était... particulièrement marqué.
Non, c'était vraiment le désert. Moi, j'avais vraiment envie de retourner dans le désert. Au départ, j'avais envie d'aller dans le désert, mais pas spécialement pour y courir. J'avais envie de retourner, mettre les pieds dans ce gros tas de sable et de ressentir cette chaleur et cette ambiance et le silence qu'on retrouve nulle part ailleurs, je crois. Donc voilà, c'était vraiment retourner là-bas. Et puis si, par la même occasion, ça pouvait me permettre de courir, je trouvais ça plutôt chouette comme projet, quoi.
Comment tu es sortie de ce stage?
Bouleversée. en fait, je pense que j'ai mis au moins 15 jours, 3 semaines à revenir, vraiment. C'était un séjour vraiment incroyable. Un gros reset au niveau énergétique, quoi. Enfin, c'est un petit peu l'effet que me fait le désert lorsque j'y vais. Et puis, en plus, au niveau course à pied, et en particulier dans cet environnement-là, je me suis sentie hyper bien. Et c'est d'ailleurs un retour que j'ai eu de la part des gens qui couraient avec moi et puis des deux personnes qui encadraient le stage qui m'ont dit c'est ton élément, t'es bien quoi. Voilà, donc c'était chouette et donc évidemment je n'ai eu qu'une envie, c'est y retourner.
Si on revient plus particulièrement sur la pratique sportive, enfin, sur la course à pied en elle-même, quel bénéfice toi tu y vois, qu'est-ce que ça t'apporte?
Maintenant la course à pied ça fait vraiment partie de mon quotidien et de mon équilibre. Alors sans aucune prétention parce que enfin voilà moi en plus en pays nantais je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus plat qu'autour de chez moi. quand il y a une petite côte je suis contente, ça fait de la variété et c'est pas souvent. Donc voilà, donc non c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien, la course à pied et les sorties running, elles ont toujours une bonne excuse. C'est soit parce que j'ai envie de prendre l'air, soit parce que j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de faire un peu le ménage dans ma tête, j'ai envie de me décrasser, j'ai envie de partager un moment avec quelques personnes. Enfin, tous les prétextes sont bons pour aller chausser les baskets. Et finalement, petit à petit... je me rends compte que je cours de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, mais toujours avec plaisir. C'est rarement une contrainte.
Tu sautes jamais donc sur un prétexte pour ne pas y aller?
Non. Puis alors, le truc, c'est que quand je me suis mise en tête que j'allais courir tel jour, ou je sais que si je le fais pas, même si au moment donné, il pleut, il fait froid... je suis fatiguée ou quoi.
La culpabilité te reprend.
C'est ça, la culpabilité est beaucoup plus forte que la flemme du début. Donc, je me bouge. Des fois, pendant 5 minutes, c'est un peu pénible. Et puis finalement, le plaisir reprend le dessus, quoi.
Est-ce que tu as besoin de vivre ton expérience en course à pied de façon individuelle, collective? Est-ce que tu as besoin des deux de façon un peu alternative? Qu'est-ce que tu apprécies le plus?
Ah, je cours toute seule, tout le temps, moi. C'est assez rare que je cours avec d'autres personnes, pour plein de raisons. Mais c'est vrai qu'en général, je cours seule parce que c'est aussi ce qui me permet de me retrouver dans mon quotidien, au travail en particulier. Je suis pas mal sollicitée par différentes personnes. Je parle beaucoup, forcément. Et donc aller courir et être dans le calme, dans la nature, à écouter un petit peu ce qui se passe autour de moi, les oiseaux, le bruit des vagues, parce que je suis pas très loin de la mer, ça m'apaise et j'en ai besoin. Je suis quelqu'un d'assez solitaire et j'ai besoin de ces moments de repos.
Si on en revient à ta pratique en compétition, est-ce que tu peux nous parler du moment que tu préfères dans une course? C'est quoi, si tu arrivais à en isoler un, quel est le moment qui t'est particulièrement cher dans une course à pied?
Je ne sais pas si j'ai le droit de dire l'après, quand je prends un café sur mon canapé.
T'as dit café, t'aurais pu dire bière, tu vois. C'est...
Ah ouais, non, plutôt café.
Ouais, le sentiment du devoir accompli et la récompense.
Exactement, ouais, c'est ça. C'est vraiment la fin et en particulier la fin d'une course quand on commence à sentir, voire à entendre la sono de l'arrivée, à sentir un petit peu qu'il y a plus de monde. Souvent, quand on approche l'arrivée, il y a plus de spectateurs, plus de gens. Quand ça sent l'écurie, quoi. l'arrivée est proche. Bizarrement, des fois, on a été les jambes un peu lourdes et fatiguées sur plusieurs kilomètres. Et puis, à 3, 4, 5 kilomètres de l'arrivée, là, ça déroule, ça va vite. C'est l'adrénaline qui repart de plus belle. Et j'adore ce moment-là, quoi, quand on approche l'arrivée.
Et le fait que tu sois quand même assez compétitrice et que tu aimes bien performer, est-ce que ça peut t'arriver d'être déçu, justement, même si c'est un moment que tu aimes bien, ce moment d'arrivée? Est-ce que tu peux... Si la place que tu imaginais faire n'est pas au rendez-vous, est-ce que ça peut être une source de déception pour toi ou c'est très vite secondaire?
Non, ça devient secondaire lorsque j'ai le sentiment d'avoir fait ce que j'avais pu et d'avoir tout donné. Parfois, une fois la ligne d'arrivée franchie, je me dis « Ouais, je suis peut-être pas si fatiguée que ça, j'aurais peut-être pu y aller un petit peu plus fort. » Mais en général, vraiment, quand je suis dans l'effort, dans la course, je donne toujours le meilleur de moi-même et je veux pas avoir de regrets, en fait. Après, si les autres sont plus forts, c'est chouette pour eux. Et moi, je veux surtout ne pas avoir de regrets par rapport à ce que moi, j'ai fait.
Trail, course sur route, format court, long, montagneux, désertique, tu t'es essayé à de multiples formats de course. Est-ce qu'aujourd'hui, le format de course à étapes, comme celui que tu as réalisé au Maroc, dont on va parler aujourd'hui, ou le marathon des sables que tu as là aussi réalisé il y a quelques semaines, est-ce que c'est celui dans lequel tu t'accomplis le plus? Et si oui, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce format-là, il te va si bien?
Alors ouais, le format à étapes, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'expérimenter quelques fois. Alors pas non plus 40 fois, parce que comme je le disais tout à l'heure, ça fait pas très très longtemps que je cours. Donc j'ai pas énormément accroché de dossard, d'autant plus qu'entre temps il y a aussi eu la période où il se passait pas grand chose à cause de la pandémie. Mais malgré tout, les courses à étapes, j'en ai fait quelques-unes et j'aime beaucoup parce que finalement le fait que tout ne se joue pas sur juste une épreuve, quelques heures, ça permet de rebondir, ça permet de se tester aussi sur ses facultés de récupération. Donc c'est vrai que c'est un format qui me convient bien, en tout cas que j'aime bien. Et puis je l'ai expérimenté en montagne et dans le désert. Et dans les deux cas, ça s'est toujours plutôt bien passé. Donc c'est quelque chose que j'aime bien.
Est-ce que c'est des expériences que tu préfères vivre de manière générale en comité très réduit et tu as tendance à fuir les courses ou les environnements qui sont un peu trop denses? Ou t'aimes bien aussi l'exaltation des grandes courses et des grands messes?
Ouais, les grandes courses. Alors, une fois de plus, hein, j'en ai pas fait énormément, mais notamment dans les Pyrénées, j'ai eu l'occasion d'aller deux fois faire une belle course dans les Pyrénées où il y a beaucoup de monde. Mais ça me va bien aussi. En fait, j'arrive à me mettre dans ma bulle et malgré le fait qu'il y ait du monde. Alors, le départ, c'est un peu plus compliqué à gérer pour moi parce que pour le coup sur la ligne de départ quand il y a un gros peloton faut se faire sa place, mais finalement le peloton s'étire assez rapidement sur ce type de format, donc j'arrive à trouver ma place quel que soit le format. Puis finalement dans un grand groupe comme ça je passe un peu incognito. c'est pas mal aussi.
Comment est-ce que tu organises ton année de course? Est-ce que tu es le genre à te fixer un ou deux objectifs clés et puis pour le reste un peu improviser ou placer des sous-objectifs au fil de l'année? Est-ce que tu improvises? Enfin voilà, comment est-ce que tout ça s'organise?
J'improvise. J'aime bien avoir une ou deux échéances. Après, j'ai un petit peu de mal à me projeter. Voilà, j'essaye d'avoir une ou deux échéances, que ce soit une course officielle ou une aventure, un voyage sportif. Et puis après, au gré de mes week-ends qui sont... Enfin, des week-ends où j'ai rien de prévu, par exemple, je vais regarder autour de chez moi s'il y a quelque chose et puis je prends un dossard, parfois à la dernière minute. Voilà, je n'ai pas un calendrier de compète hyper établi. Voilà, j'essaye toujours d'allier voyage, plaisir et compète, et planning professionnel et planning familial. Donc, c'est pas toujours
c'est déjà un beau challenge d'arriver ouais, à coordonner tout ça.
Trouver l'équilibre et jongler avec tout ça, quoi.
Et justement, c'est quoi les ingrédients pour toi qui sont indispensables pour qu'une course ou un off soit réussi? Qu'est-ce qu'il faut y trouver à tout prix?
Faut toujours que ça soit dans un environnement. Alors, je préfère que ça soit dans un environnement, un endroit que je ne connais pas forcément ou des passages que je vais découvrir. Beaucoup de nature et pouvoir conserver ce sentiment de liberté, même quand il y a du monde, même quand il y a une orga. Je suis un peu têtue, j'aime bien faire les choses un petit peu
à ta manière,
comme je l'entends, voilà. Et même quand il y a une grosse orga, je vais toujours trouver un moyen de faire les choses un peu à ma sauce. Donc voilà, j'aime pas être un mouton, j'aime pas faire pile poil comme les autres. Alors ça prend différentes facettes, hein. C'est soit j'y vais un petit peu à l'arrache avec du matériel que je prépare pas spécialement, puis je me dis allez hop, elle y a Jacques Taès, on verra si les chaussures tiennent. Enfin voilà, ce côté un petit peu je m'organise mais pas vraiment, et puis on verra.
T'as pas très envie qu'on t'impose les choses en tout cas?
Non, plus on va me les imposer et
plus tu vas faire l'inverse.
Sortir du cadre, exactement. Ouais.
Dernière question de cette introduction, Solène, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu considères être, d'un point de vue sportif, à la fois physique et mental, tes points forts et puis les zones sur lesquelles il y a des choses que tu penses pouvoir améliorer, que tu as envie d'améliorer?
Oh là là, alors, les choses à améliorer, je pense que j'en ai beaucoup, beaucoup. Déjà parce que je me prépare jamais, enfin je me prépare jamais. Je m'entraîne toujours uniquement au feeling. J'ai pas de plan d'entraînement, j'ai pas de coach, j'ai pas forcément toujours une hygiène de vie parfaite. Je fais les choses vraiment comme je peux, en essayant une fois de plus de concilier, le boulot, mon fiston qui est petit et qui a besoin de moi. Ma maison, le temps libre que j'ai, les amis, la famille, enfin voilà. Donc je m'entraîne comme je peux en essayant de ne rien frustrer, en tout cas de ne frustrer personne. Donc l'entraînement pourrait certainement être amélioré. Je suis très mauvaise en descente lorsqu'il s'agit d'un terrain montagneux. Très souvent quand ça descend, je suis plutôt trop prudente et du coup, je me fais doubler dans tous les sens.
Et ça t'énerve? Tu peux me le dire, personne ne le saura.
Oui, ça, en fait, ça ne m'énerve
frustre.
Pas de me faire doubler, mais moi, je suis frustrée parce que je sens que c'est parce que j'ai peur de descendre vite, parce que je ne me fais pas trop confiance et j'ai peur de me casser la figure ou de perdre une cheville en cours de route. Donc, je m'énerve contre moi-même. Je me dis, allez, vas-y, avance, quoi. Donc, j'aurai du boulot à faire sur la technique, clairement. Voilà.
Le mental.
Le mental.
Inébranlable.
Est assez,
friable.
Ouais. Alors, je pense quand même qu'au niveau mental, je lâche jamais rien. Par contre, je suis dure envers moi-même. Je me ménage pas. Donc, ça peut être compliqué à gérer parfois. Je suis beaucoup dans l'émotion aussi, je pleure facilement, mais je lâche rien. Par contre, je sais que je n'abandonne pas, je lâche rien. Par contre, ça peut être compliqué quand même au niveau mental. Je vais avoir un mental vraiment en dents de scie où je vais être assez.
Tu cogites beaucoup pendant les courses ?
Non, une fois que je suis partie. Et c'est là, en fait. Je cogite beaucoup trop avant, clairement, à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai pris ce dossard ? Qu'est-ce que je fais là ? Je suis pas capable, mais enfin voilà, en gros, mais pour qui tu te prends, Solène, quoi, à faire un truc pareil ? Par contre, une fois que je suis partie, et puis je fonce, et je m'arrête pas. Voilà.
Merci beaucoup, Solène, pour ces échanges introductifs. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu et pourquoi ?
Je pensais à Snoopy, le petit chien.
Le petit chien, ouais.
Déjà parce que je trouve que c'est un petit personnage plutôt sympa dans la BD, il est discret. C'est un petit chien qui pense beaucoup, mais en fait comme c'est un chien, il peut pas s'exprimer, il y a que deux personnes, du coup très peu de personnes qui arrivent à le comprendre et à savoir ce qui se passe dans sa tête. Par contre, il pense tout le temps beaucoup, il s'essaye à plein de choses. C'est un chien qui est allé dans l'espace, qui a fait du surf, voilà. Donc il essaye plein de trucs, et puis quelque chose aussi qui m'amuse beaucoup chez ce petit chien et puis qui me fait un petit peu penser à moi, c'est que c'est son côté un petit peu anticonformiste. Il a une niche mais il dort jamais dedans, il dort dessus tout le temps. Et moi, j'amuse pas mal mon entourage parce que je dors par terre très, très souvent, même chez moi. Et j'adore ça, je dors beaucoup mieux.
Et sans matelas, voilà, sans rien, même le sol ?
Oui, ça peut m'arriver. Et même quand je pars en vacances, justement, que ce soit dans le désert ou en montagne, c'est assez fréquent que j'aille dormir dehors. Ça dépend où je suis, mais soit à la Belle Étoile, soit éventuellement sous une tente, mais par terre en fait.
Qu'est-ce qui te pousse à faire ça ?
Je suis tranquille dehors toute seule. J'aime pas trop dormir en entendant des gens autour de moi qui bougent, voilà. Et puis j'adore dormir dehors, entendre plutôt les bruits de la nuit, la fraîcheur de la nuit, voilà. Et je dors beaucoup mieux sur un sol dur, en plus. J'ai moins mal au dos depuis que je dors sur du très dur. Donc voilà, donc c'est un peu mon côté Snoopy qui ne dort pas là où il devrait dormir.
Ça n'a pas été trop dur à vivre, la promiscuité au Marathon des Sables, à être 8 dans un périmètre assez circonscrit là, pour passer les nuits ? T'as les prendre sur toi ?
Non, pas trop, parce que déjà j'étais tout au bout de la tente, enfin vraiment sur le côté sous la toile. Donc du coup, j'étais pas au milieu des gens. Et puis, en fait, je mettais des bouchons dans mes oreilles, comme ça, j'entendais pas ce qui se passait autour de moi. Et en fait, non, moi, j'ai hyper bien dormi. Pour le coup, je suis habituée à dormir par terre, donc ça m'a pas dérangée, j'ai pas eu froid, et je dormais bien, j'ai bien récupéré.
Et puis, t'avais quand même un super casting dans ta tente.
Ouais.
Cici, Cusso, Julien Chaurier, entre autres, Lucine.
Ouais, on était une super équipe. Mais... Alors, l'ambiance était super, l'équipe était au top. Donc moi, j'ai quand même passé cette semaine, j'étais un peu inquiète parce que pour moi, dans l'équipe, j'étais un peu le petit boulet. Donc l'objectif de la semaine, c'était de faire le maximum pour pas pénaliser l'équipe, justement, parce que on espérait fortement monter sur la boîte. On l'a fait, mais clairement, c'est surtout moi qui risquais de tirer l'équipe vers le bas, donc... Le challenge, c'était de limiter la casse. J'ai réussi.
Et puis les équipes aussi, enfin les équipes en présence, le niveau était quand même très très relevé aussi devant.
Oui, puis...
C'était un sacré objectif, ce podium.
Ouais, tout à fait, d'autant plus que première équipe, deuxième équipe et quatrième équipe aussi, je crois, ce ne sont que des garçons. Donc on était la première équipe mixte quand même, c'est pas rien. Donc non, je pense qu'on peut être fiers de nous.
C'est vrai, non, tu peux, vous pouvez. Mm. Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, lequel serait-il ?
Alors, je pense que je serais un mélange de deux animaux. Donc, je serais le mélange entre une gazelle. Alors, je n'ai ni la vitesse, ni l'agilité, enfin la grâce de la gazelle. Par contre, comme j'ai fait mes premiers pas de trail dans le désert et que c'est un élément qui me plaît beaucoup, c'est ce côté-là de la gazelle que je retiendrai. Et puis, l'autre animal, c'est la belette, parce que c'est un petit animal hyperactif, hein, qui fait tout le temps plein de trucs, et puis qui est très curieux et plutôt solitaire. Voilà, donc si on fait la combinaison...
Tu serais une gazette. J'aime bien faire des mash-ups, des noms d'animaux. Quand on me propose deux, je fais les mélanges à deux. Donc là, tu serais une gazette.
Ben, moi, j'avais plutôt pensé à la galette. Et comme ça, c'est un petit clin d'œil à oui, mon aussi. Origine.
Pas mal. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Encore mieux, bien mieux.
Donc moi, je serais une galette.
Est-ce qu'il y a enfin un sportif ou une sportive qui est une source d'admiration ou en tout cas de respect de ta part pour ce qu'il a réalisé ou pour ce qu'il est ?
Alors, pas vraiment. Alors, j'admire et je respecte beaucoup de sportifs dans différents sports d'ailleurs, et en particulier en course à pied. Par contre, je suis pas fan. J'ai jamais été fan de qui que ce soit d'ailleurs. Alors je sais pas pourquoi, mais je peux pas dire ouais je suis ultra fan de telle coureuse, telle champion de je sais pas d'équitation ou quoi. Je suis très admirative, mais après j'ai pas spécialement de modèle. Je prends un petit peu.
Tu picores à droite à gauche.
Ouais
là,
c'est ça.
Les uns et les autres.
C'est ça. Je vais aller piocher des astuces, des belles performances. Des petits tips à droite à gauche chez différents sportifs de haut niveau ou de moins bon niveau d'ailleurs, mais je suis pas groupie quoi.
Pas une icône.
Non, je vais pas aller demander des autographes à l'UTMB en allant me balader cet été. Voilà.
Merci beaucoup Solène, le moment est venu de parler de ta course épique, la traversée du Haut-Atlas. Avant ça, je vais dire quelques mots introductifs pour planter le décor de cette aventure de 274 km, 11 000 mètres de D+, en cette étape. Donc le Haut-Atlas, c'est le massif le plus élevé d'Afrique du Nord, qui est parfois surnommé le toit du Maroc ou encore le toit de l'Afrique du Nord. Il forme une immense barrière d'environ 700 km de long qui délimite le Maroc saharien du Maroc atlantique et méditerranéen. Ce projet dans lequel tu t'es lancé, Solène, est encadré par Lucine Agdar, guide de montagne et organisateur du Grand Trail de la Vallée du Drat depuis 2017, dont tu as commencé à nous parler déjà un peu plus tôt dans l'épisode. Lucine, c'est également un coureur qui a un très solide palmarès. Il a été 17 fois, je crois, finisher du Marathon des Sables et a notamment fini 3e en 2005 et plusieurs fois premier au classement par équipe. Et donc, il a été cette année, comme tu l'as dit, sur la troisième marche du podium avec à tes côtés Sissi Cusseau, Julien Chaurier.
Oui.
Que l'on adore chez Course Épique, qui sont super. Cette traversée du Haut-Atlas d'Est en Ouest, elle promet de vous faire découvrir notamment la vallée heureuse des Haït Bouguemez, pardon pour l'accent, la vallée de Tassaout, le col de Tishka et le haut plateau d'Iagour notamment. Le parcours vous donnera également, en théorie, à découvrir les deux plus hauts sommets du Haut-Atlas, le Mgoun, qui culmine à 4071 mètres, et le Toubkal. Tu nous raconteras comment tout ça s'est passé dans la réalité des choses. Et voilà, et au-delà de ces vallées et villages que l'on imagine volontiers sublimes, cet itinéraire, c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre de la population berbère qui a la réputation d'être particulièrement accueillante. Et je pense que ça s'est vérifié tout au long de cette aventure. Vous êtes assisté dans cette entreprise par le frère de Lucine, qui peut compter sur des mules et aussi des 4x4 pour assurer le portage de vos bagages et l'intendance sur tout le parcours. Mais tu vas nous raconter tout ça en détail là aussi, Solène. Donc aucun doute possible avec cette traversée, la déconnexion que tu chéris tant et le dépaysement seront totaux et l'engagement physique aussi. Avant qu'on rentre plus particulièrement dans ta course épique, Solène, on va passer à la question qui pique de course épique, une question très gentiment piège que je pose à mes invités. J'espère que tu n'es pas trop inquiète, ça va bien se passer. Elle n'est pas très facile, je pense. Enfin, si, tu as une chance sur deux, c'est un vrai faux.
Ouais, tu vois, ça devrait
bien se passer. Non,
je suis anxieuse, moi, alors ne me stresse pas. Ah,
non, ça va très bien se passer. Donc, on trouve bon nombre d'animaux dans le Haut-Atlas. Il y a des félins comme le lynx caracal ou le léopard de Barbarie, dans une zone très limitée, mais aussi et surtout des mammifères bien plus courants comme les belettes, les chacals, les renards, les porcs épiques, des sangliers, encore des rapaces, des serpents comme les couleuvres ou les vipères de la tasse. Je ne sais pas s'il y a des Snoopy en liberté, je suis pas certain.
Ma question... Non, je suis pas sûr.
Non, pas sûr. Ouais, t'as pas vu des niches avec des chiens qui étaient allongés sur le toit ?
Non. Des vaches sur le toit des maisons, oui, mais pas des chiens.
Dans un autre style. Voilà l'heure de ma question qui pique pour toi, Solène. Ça va être un vrai faux, donc relatif à la faune locale. Si tu avais entrepris cette traversée il y a quelques centaines d'années, est-ce que tu penses que tu aurais pu croiser sur ton chemin dans l'Atlas des ours, des éléphants et des lions ?
Je pense que des lions, oui, parce que oui, le lion, oui, je pense que oui. Allez.
Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo. Bravo, je vais t'expliquer. Certaines régions de l'Atlas faisaient partie à l'époque, donc c'est difficile à dater, mais c'était il y a plusieurs centaines d'années, faisaient partie de l'Empire romain. Et donc, les anciens romains ont exploité beaucoup de ressources de ces montagnes, y compris certains animaux qui vivaient à l'époque. Et donc, ils sont la principale raison pour laquelle de nombreuses espèces ont disparu, car ils les ont importées en Europe pour les utiliser dans des spectacles qui comportaient des scènes de chasse ou d'exécution d'animaux. C'est pas très joyeux. Et donc, tout ça a été organisé dans des amphithéâtres de l'Empire. Et donc parmi ces animaux figuraient malheureusement l'ours de l'Atlas et l'éléphant d'Afrique du Nord, qui ont donc malheureusement et maintenant disparu de la région. Le lion de Barbarie, également appelé lion de l'Atlas, tu l'as dit à demi-mot, a lui réussi à survivre à l'époque romaine, mais s'est éteint à l'état sauvage. Donc aujourd'hui, on ne peut plus en trouver à l'état sauvage, mais le gouvernement marocain, quand même, il en subsiste aujourd'hui une centaine en captivité.
Mais il me semble que gouvernement marocain. C'est pas le nom de d'une équipe de foot au Maroc, les lions de l'Atlas ? Il n'y a pas quelque chose comme ça ?
Ouais, tu as raison. Et je ne saurais pas te dire laquelle, mais oui, ça me parle en tout cas. Et donc, le gouvernement marocain avait pour projet de réintroduire les derniers spécimens en captivité dans la nature, mais le projet, malheureusement, a été abandonné pour plein de raisons, et notamment la dégradation de leur milieu d'origine, et puis l'occupation humaine qui, je pense, un peu perturbe leur réintégration à la vie naturelle. Donc, il en subsiste, mais pas à l'état sauvage. Mmh. Bravo.
Merci.
C'était pas une question super fun, mais voilà, il faut bien le dire, mais tu as réussi. On va maintenant plonger, Solène, dans ta traversée de plus de 250 km du Haut Atlas et laisser derrière nous cette question qui pique. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer quand et comment est née cette idée de traversée ?
Alors déjà parce que Lucine m'en a parlé à plusieurs reprises, également parce que moi-même, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller courir dans le massif de Toubkale et j'ai adoré cette région. Enfin, c'était vraiment très très beau. Je crois que je suis plus allée courir dans cette région montagneuse que dans les régions montagneuses françaises. Voilà. Et puis, en discutant avec un autre ami breton, on s'était dit tiens, ce serait cool de se faire un petit périple, et puis on était parti dans l'idée de faire la traversée de l'Atlas ensemble, mais pour pouvoir rendre les choses un petit peu plus faciles à organiser et puis sympathiques, on a eu envie de constituer un petit groupe qui aurait été encadré par Lucine, bien sûr. Voilà.
On a tous remarqué que tu as parlé au conditionnel.
Oui.
Dans le sens, je voulais pas t'interrompre. Non, mais dans le sens où ça s'est pas passé exactement comme prévu.
Oui, voilà, parce qu'en fait tout ça c'était 2019 quoi. Donc on a lancé un petit peu le projet et puis après il y a eu le Covid, enfin voilà, différentes perturbations. Le copain ne pouvait plus venir parce que pour des raisons professionnelles il était plus disponible à la période prévue. Donc il y a quand même eu un petit groupe de constituer, on s'était projeté de faire la traversée, du coup on aurait dû être 7 au mois de juin 2021. Voilà, on avait, Lucine et moi, communiqué chacun de notre côté pour réunir un nombre de personnes suffisant, etc. Juin, ça n'a pas pu avoir lieu pour des raisons de nouvelles fermetures de frontières et de restrictions sanitaires. Donc, Lucine et moi, on a décidé de reporter la traversée en septembre 2021, mais le reste du groupe n'était pas disponible. Donc, du coup, on s'est dit, eh ben tant pis, on l'a fait tous les deux, et puis voilà. Donc, au niveau logistique, les choses ont été un petit peu différentes, parce qu'on ne s'organise pas pour deux comme on le fait pour 7 ou 8. Mais on s'est dit, allez, c'est pas grave, ça va être chouette, ça va être une belle aventure et on part comme ça. Donc, c'était en septembre dernier.
Dans ton esprit, est-ce qu'un tel défi sportif, c'est indissociable de l'aventure humaine qui c'est même pas qui se cache derrière, mais en tout cas qui est évidemment indissociable de la dimension sportive? C'est vraiment les deux choses que toi, tu viens chercher dans cette expérience-là?
Ouais, c'était vraiment ça. C'était de prendre un grand beau bol d'air. En fait, je crois que je me rendais même pas trop compte de la difficulté. Parce que quand je disais aux gens, bah, je vais faire la traversée de l'Atlas, ah ouais, c'est quoi? Bah, à peu près 280 km, 13 000 des plus, ça c'était le projet. Ah ouais, quand même, et tu fais ça combien de temps? Bah, une semaine. Ah ouais, ouais. Et moi, je me rendais pas compte, en fait. Moi, je voyais plus de. Non, mais je sais pas. Des fois, je crois que je fais abstraction de certains paramètres. Voilà. Je rappelle que je vis à peu près à 15 mètres d'altitude tout au long de l'année. Voilà, je partais à 3 500, 4 000. Voilà. Bref. moi, je voyais surtout que je partais me balader en montagne. Découvrir une région de l'Atlas que je connaissais pas, parce que la fin de la traversée, c'est un secteur que je connais maintenant assez bien, mais tout le début, c'est une région où je n'avais jamais mis les pieds, et j'étais super impatiente de découvrir ce coin-là, et surtout dans ces conditions, finalement, le fait de n'être que deux, ça nécessitait qu'on soit vachement plus autonome tout au long de la journée. On avait, comme tu le disais tout à l'heure, une personne avec un véhicule, et au début de la traversée, pas de véhicule, seulement des mules, qui nous rejoignaient le soir, mais le reste du temps, eh ben, on se débrouille, quoi. Donc, c'était vraiment une aventure avant tout, sportive bien entendu, et puis une aventure qui sera forcément jalonnée de rencontres et d'expériences et d'aléas et l'aventure, quoi.
Et puis un téléphone qui est en mode avion, et ça n'a pas de prix.
Et ça, c'est génial. Ouais, tout à fait. Exactement.
Le grand luxe. Est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ta prépa? On imagine le challenge en habitant en Loire-Atlantique, tu nous l'as dit, pour aller chercher du dénivelé ou des conditions plus montagneuses. Comment est-ce que tout ça s'est orchestré? Enfin, comment est-ce qu'on se prépare pour ce type de rendez-vous?
Alors, je suis un très mauvais exemple. Parce qu'en fait, je me suis pas vraiment préparée. Il se trouve que l'été j'ai plus de mal à me préparer en plus parce que comme il y a les vacances scolaires, moi mes congés du coup ce sont des moments que je passe plutôt avec mon petit garçon, donc c'est pas le moment d'aller courir 5 heures par jour en montagne, quoi. Je peux pas. Donc 15 jours avant, j'avais fait une course dans les Pyrénées quand même, donc ça m'avait permis de prendre un peu d'altitude et de faire un peu de D+, parce que sinon...
Quelle distance ?
C'était le tour de la Gela, donc dans le cadre du Grand Raid des Pyrénées, c'était 40 kilomètres, enfin 43 en réalité, et puis je ne sais plus combien de D+, 3000 ou 3005, quelque chose comme ça. Donc ça c'était fin août. Et puis le reste de l'été, j'ai pas fait de montagne, donc je me suis entraînée comme d'hab, quoi. Quelques sorties longues, quelques séances plutôt qualitatives, des footings. Dans ces périodes-là, je mets un petit peu plus l'accent sur le renforcement musculaire, histoire de pas partir complètement molle. Et puis voilà. Et après, il y a là, quoi.
Advienne que pourra.
C'est ça.
La prépa, là, on l'a entendu, c'est un peu particulier sur cette course-là, mais est-ce que, de manière générale, c'est une période que tu aimes bien et que tu considères faire partie intégrante de la course et que tu vis déjà à fond?
Ouais, moi, j'aime bien me préparer. Alors, du coup, plus ou moins, de façon plus ou moins précise. Parce que courir pour courir, c'est sympa, hein, mais moi, j'aime bien courir quand même en me disant, j'ai une échéance. Ça me permet de justifier un petit peu le temps que j'y passe aussi et puis de me motiver quand je vais plutôt faire du renfo à la salle et que ça me motive un petit peu moins. Donc oui, toutes les périodes de prépa, l'entraînement, et puis après comme je cours aussi beaucoup parce que ça me fait plaisir et que ça me fait du bien et que sortir un petit peu de ma zone de confort, même en entraînement, j'aime bien. Donc voilà, après l'événement, le que ce soit une compète ou un événement off, c'est le prétexte, quoi.
Est-ce que les projets, tu fais en sorte qu'ils soient différents à chaque fois ou est-ce que tu peux prendre plaisir à retourner sur des formats ou sur des terrains ou des expériences que tu as déjà connues ou est-ce que tu cherches justement plus à privilégier la diversité?
Moi, j'aime bien quand ça change, sinon je m'ennuie. Alors, si je dois retourner quelque part, c'est peut-être dans un contexte différent. Les compètes, en général, j'aime pas trop les refaire parce que j'ai tendance à trop vouloir me mesurer à moi-même par rapport à ce que j'ai pu faire ou ne pas faire la fois d'avant. Et je me mets une pression de dingue, toute seule comme une grande, hein, j'ai besoin de personne pour me mettre la pression. Et c'est pas très sain pour moi, enfin j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc je préfère faire de nouvelles choses, comme ça j'ai moins de points de repère par rapport à ce que je sais faire et par rapport à qui je suis. Donc voilà, et puis le côté inédit, le côté laisser la place aux imprévus, ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que je suis quelqu'un d'assez organisé, mais pas trop. C'est-à-dire que j'aime bien cadrer les choses à peu près, mais laisser beaucoup de place aux imprévus parce que, en général, je m'adapte assez facilement aux nouvelles choses, aux imprévus, aux aléas, tout genre. Et je veux laisser cette place à tout ça. C'est important pour moi de me laisser surprendre un peu par les événements.
Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette traversée ?
Eh ben déjà, je ne savais pas du tout si j'allais être capable d'encaisser tous ces kilomètres et tous ces mètres de dénivelé. Donc, je m'attends à trouver ça dur. Je m'attends à découvrir des paysages inédits. Je m'attends aussi à passer de longues heures avec moi-même parce que on était deux certes, mais finalement on n'était pas tout le temps très très proches. On n'a pas forcément tout le temps le même rythme en fonction du terrain et tout ça. Donc je m'attends aussi à avoir beaucoup beaucoup de temps pour faire le ménage dans mon esprit.
On va se projeter, ça y est, au Maroc. On est vendredi, la veille du départ. Est-ce que tu peux nous parler de cette journée ? Qu'est-ce que vous avez mis à profit ce jour-là ?
Donc oui, le vendredi, c'est le jour où j'arrive de mon plat pays nantais à Marrakech, où je suis accueillie par le 4x4 et puis les deux personnes qui vont m'accompagner toute la semaine. Donc déjà c'est toujours un vrai bonheur d'arriver là-bas, il fait beau, enfin le temps est pas du tout le même, donc ça fait plaisir, on se sent tout de suite ailleurs en vacances. Et puis en fait on n'a pas perdu de temps parce qu'il y a pas mal de routes pour se rendre au point de départ de la traversée. Il y avait de mémoire 5 ou 6 heures de route à faire. Donc voilà, je monte dans le 4x4, je mets la valise derrière et puis on part direct en direction donc de la vallée des Aït Boumez. Et puis sur la route, on s'arrête faire quelques achats parce que du coup, comme on sera autonome pendant toute la semaine, on a besoin de faire quelques courses pour se nourrir et voilà. Donc c'est chouette, c'est déjà l'aventure qui commence, de s'arrêter dans les petites villes pour aller acheter le pain, la viande, s'arrêter sur la route, acheter et goûter quelques figues parce que c'est la saison. C'était chouette. Et puis, on arrive de nuit dans notre gîte, un beau gîte très calme, où là, du coup, on peut déjà, dès le soir, sortir les cartes, refaire le point sur le périple, sur le matériel. Voilà, donc ça commence direct.
Nous sommes le samedi 11 septembre 2021, c'est le grand jour. Comment est-ce que tu te sens là ? Le départ est imminent. Qu'est-ce qui prend le dessus à ce moment-là ? C'est beaucoup d'impatience, quelques craintes, ce que tu disais sur une expérience sportive inédite pour toi, qu'est-ce qui domine à ce moment-là ?
Alors, aucune crainte, parce que pour le coup, comme c'est pas, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de compète, et puis j'ai aucun élément de comparaison, donc voilà, pas de peur du tout, beaucoup d'impatience. Super pressé de partir. Donc ce matin-là, on se lève tranquille, on prend le petit-déj typique marocain avec le pain, l'huile d'olive, le thé. Et ensuite, on part directement rejoindre Alors, pour ce début de parcours, ce ne sera pas le 4x4 qui assurera notre assistance. Ce sont deux muletiers, Mustapha et Youssef, qui sont donc avec leurs deux mules. Donc, du coup, on les rejoint un petit peu plus loin dans un village. Et là, ben, on transfère nos valises, toute la nourriture et puis tout le matériel nécessaire pour ces deux premiers jours sur le dos des mules. Donc, moi, je.
Pauvre mule, je suis, solidarité pour les mules.
Ah ouais, moi, je suis impressionnée quand on dit chargée comme une mule, mais c'est pas. Enfin, cette expression, elle tombe pas du ciel. C'est impressionnant ce qu'on peut leur mettre sur le dos et. Voilà, elle branche pas, mais enfin voilà, on met les valises, les tentes, les petites bouteilles de gaz, la viande, le pain, tout quoi. C'est incroyable. Les bouteilles d'eau, les grosses
bouteilles. Le home trainer.
Ouais, c'est ça, le home trainer.
Le micro-ondes.
et du coup, on part avec donc ces deux mules, leurs muletiers qui sont super. Super gentil et super simple. Et puis, nous trois, donc Lucine, son frère Ismaël et moi-même. Et on part pour cette première journée d'acclimatation parce que voilà, c'est nécessaire de se faire une première petite étape tranquille pour se faire à l'altitude, pour se faire au climat, pour se faire à plein de choses. Et on part tranquille à la vitesse de ces deux... courageuse mule pour, je crois qu'on a fait 16-17 kilomètres ce premier jour.
Est-ce que tu peux nous raconter, sur le principe en tout cas, une journée type, nous parler de l'heure de réveil, le kilométrage quotidien moyen que vous imaginez faire, et puis est-ce que vous êtes dans une logique quand même d'aller au rythme le plus soutenu possible, ou aussi de vous accorder un peu des temps de pause? Qu'est-ce que vous vous dites en tout cas au moment où tout ça démarre? Comment est-ce que vous imaginez que vont se passer vos journées?
Alors l'idée, c'est de ne pas partir trop tard le matin parce que... on ne sait jamais trop ce qui peut arriver au cours d'une journée en montagne. Il n'y a pas de ravito, il n'y a pas d'assistance sur le parcours. Donc voilà, si on rencontre un pépin, faut qu'on se laisse quand même un petit peu de marge pour pouvoir y faire face. Donc l'idée, c'est de ne pas partir trop tard. Alors moi, je ne suis pas du tout du matin, donc autant te dire que déjà, quand on me dit on part à 8h, je suis « oh là là, ok ». En général, quand on se dit on part à 8h, c'est qu'on part à 8h30, voire 9h, quoi. Je suis pas accompagnée de gens très très matinaux non plus, donc finalement on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et puis les étapes, alors hormis la première journée d'acclimatation, qui est un petit peu moins longue, les étapes globalement elles font je crois que la plus courte faisait 35 km et les plus longues 60. En général, on est plutôt aux alentours de 40-50 km, quoi. Avec à peu près 1500 de D+, à peu près 1500-2000, ça dépend des jours.
Et l'idée de courir dès que c'est possible de le faire.
Exactement. Alors ouais, parce que moi, en fait, même s'il n'y a pas de chrono, je suis toujours un peu... pas un peu speed, quoi, mais je fais pas de la randonnée, je cours dès que je peux. Quand c'est plat, quand ça monte pas trop fort, quand ça descend, enfin voilà. Dès que je peux, je cours. Et puis, quand je peux pas courir, je marche, quoi, bien entendu. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pas trop traîner parce que c'est aussi d'aller se faire un peu de sport, quoi.
Se challenger un peu sportivement.
Ouais, c'est ça, se bouger, quoi.
Dimanche, il y a un premier gros morceau qui est l'ascension du Mgoun. Oh. Est-ce que tu peux nous parler de cette ascension, de la façon dont ça s'est passé, et puis nous en dire un peu plus sur le décor dans lequel vous avez été amené à évoluer?
Oui, alors le dimanche, effectivement, première vraie étape de la traversée, on est dans le massif du Mgoun. Donc l'objectif, c'est d'accéder au sommet du Mgoun. C'est le deuxième point culminant d'Afrique du Nord après le Toubkal. Et donc on part de notre camp de base. On avait installé le bivouac la veille sur un plateau. Enfin voilà, on a bivouaqué là un petit peu de façon assez sauvage, les mules en liberté, une petite source un peu plus loin pour récupérer de l'eau, pour éventuellement se laver, mais surtout pour manger et boire. Et donc le dimanche, on part en direction de ce sommet. C'est un paysage qui est assez lunaire, il y a très très peu de végétation de ce côté-là. Et puis nous, on passe par les crêtes et puis par quelques petits cols. Et l'objectif, c'est de rallier donc la crête du Mgoun, de l'allonger, puis de redescendre par un autre côté. Cette ascension-là, donc aller-retour, ça fait 26 kilomètres, je crois. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'il faisait très beau. Habituellement, c'est un sommet qui est très exposé au vent et où il peut faire très froid. Et en fait, on a eu des conditions climatiques parfaites. Il n'y avait pas beaucoup de vent, j'ai pas eu froid. Je crois que je suis restée en t-shirt tout le long. Et du coup, on n'a pas été perturbé non plus dans l'ascension à cause du vent ou de la météo, quoi. Voilà. En fait, on a eu alors les derniers mètres de l'ascension jusqu'à la crête, c'était un petit peu vertigineux. Puis arrivé là-haut, on s'est pas attardé parce que bon, il faisait quand même pas très très chaud. On prend quelques photos, on profite du paysage qui est incroyable sur toutes ces belles vallées. Enfin voilà, c'était un côté très très chouette. Et puis la descente, on l'a fait assez vite parce que c'est assez abrupte, mais dans des petits cailloux, donc en fait, on peut courir facilement dans la descente. Et ensuite, on redescend bien, bien, bien plus bas dans la vallée pour rejoindre nos muletiers qui, eux, avaient pris de l'avance. Et puis, voilà, on réinstalle un bivouac le soir dans la vallée des bergeries d'Ikis.
Le petit passage un peu vertigineux, c'est pas trop ton truc, si j'ai bien compris.
Non, alors, ouais, quand ça... c'est ça. Il y a un endroit où j'ai un peu flippé parce que c'était au moment où on montait. Ça glissait beaucoup et moi, dans ces moments-là, faut pas que je regarde trop d'où je viens parce que je me rends compte que si je dérape, la chute peut être un petit peu violente. Donc, je faisais pas trop la maline. J'ai grimpé en regardant vraiment là où j'allais. C'était pas très long, hein, ça fait peut-être 20 mètres, mais on grimpe avec les mains, en fait. Donc, voilà, j'étais pas super, super à l'aise. Mais ça l'a fait. De toute façon, il fallait aller là-haut, donc on se pose pas trop de questions. Il faut y aller.
Le lundi, la journée du lendemain, donc place à un gros morceau qui t'a paru, on peut le dire, interminable. Est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu as rencontrées sur cette session et puis les moments d'émerveillement que tu as connus sur les 25-30 premiers kilomètres qui ont ensuite laissé place à une certaine forme de lassitude, si on peut dire.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, donc là, c'était une étape qu'on savait longue. On savait qu'on avait à peu près 50-55 kilomètres prévus sur cette étape-là. On avait changé un petit peu le parcours en fait au départ, donc bon, moi je m'étais mise en tête qu'il y avait 50. Voilà, j'avais dû préparer mon truc et je m'étais mise en tête une distance que j'aurais pas dû, j'aurais jamais dû faire ça. Donc le début super, on grimpe un premier col. Et puis là, en plus, fait du hasard trop rigolo, on croise des Français et en discutant, je me rends compte que dans le groupe, il y a une dame, en fait, c'est ma voisine, enfin, je ne l'avais jamais croisée, mais elle habite le même village que moi, c'est improbable, elle connaît mes parents, c'était super drôle. Donc, comme quoi, on peut même pas être tranquille, même là-bas, quoi. Bref, on continue et on passe un premier col, là, le temps se couvre un petit peu, mais ça va. On continue notre ascension pour arriver jusqu'à un col à 3005 et puis passer ce col, là le temps change vraiment de façon très brutale, le vent se lève, la pluie, il s'est mis à faire hyper froid, on a eu derrière une descente assez raide, un peu technique, plus le vent, la pluie qui fouette, enfin c'était un peu l'enfer cette descente-là, donc du coup moi j'arrive à m'abriter derrière un rocher pour enfiler rapidement mes gants, ma veste, pour pas me refroidir, pas prendre de risques, et puis je descends, enfin voilà, en mitouflé dans ma capuche, c'était un petit peu compliqué, on est redescendu du coup sur un plateau, et puis par chance, sur ce plateau-là, un petit peu plus loin, il y a un refuge, dans lequel on a réussi à s'abriter, donc on a pu boire un thé, enlever nos affaires, les mettre à sécher un petit peu, le temps que la pluie passe et que le vent se calme. Donc déjà première mise en jambe, je sais pas, on avait dû partir depuis peut-être 2-3 heures, je sais plus trop. Gros temps quoi, on avait eu de la pluie la veille au soir déjà au bivouac. Donc le climat n'était pas très très favorable. On s'attend à ce qu'au Maroc il fasse toujours beau, mais ça reste de la montagne. Donc là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Voilà. Du coup, on poursuit notre périple, on reprend nos sacs, nos affaires. Et puis, on remonte un petit col et là, on arrive dans un paysage de western magnifique. Le vent s'est calmé, il fait de nouveau un petit peu plus doux. Donc, on continue notre balade au milieu de ces rochers, de ces falaises. Enfin, c'est vraiment très étonnant. Le paysage est très changeant, en fait, dans cette région-là, d'une vallée à l'autre. C'est surprenant. On poursuit notre parcours et là on arrive en haut d'une falaise, un col, et donc il faut descendre. L'objectif c'est de descendre donc dans la vallée qui est nettement plus bas. Je sais pas quelle différence de dénivelé on a, mais en tout cas c'est très très bas. Et puis surtout là, derrière ce col, le vent est de nouveau très très présent, très froid. Et puis on a une descente très technique qui nous attend. Moi j'ai peur à cet endroit-là, je flippe parce que le vent me pousse beaucoup. Alors je suis pas je fais pas 12 kilos, mais je suis pas non plus un gros gabarit, et là le vent me pousse vraiment. Du coup j'attrape la main de Lucine et puis il m'aide à descendre. Ça me rassure beaucoup parce qu'il y a des endroits, c'est des petits graviers, faut vraiment pas glisser parce que c'est à flanc de montagne. Enfin voilà, je fais pas trop la maline, je regarde les pieds de Lucine, je tiens la main et on descend comme ça doucement. Et puis passé cette difficulté là, on arrive dans une sorte de petite forêt. Mais là, je me repose un petit peu, je m'assois, je prends quelques photos et je regarde la vallée en bas qui est magnifique, très verdoyante. Il y a quelques villages. Je regarde ma montre, je crois qu'on a fait peut-être 25 ou 30 bornes, et je sais pas pourquoi dans ma tête, mais je me suis dit qu'on avait presque fini en fait. On avait déjà traversé plusieurs difficultés, et du coup, dans ma tête, je me suis dit, voilà, c'est bon, on arrive bientôt. Et c'est là que j'aurais jamais dû me dire ça, parce qu'on n'était pas du tout arrivé. Et le reste du chemin sera très long. On descend dans la vallée, on croise quelques villages, des enfants, des jeunes filles du coup qui me font coucou et qui, je pense, sont un petit peu surprises de me voir arriver de la montagne en short, alors qu'elles elles sont bien couvertes, et parce que pour eux il fait pas super beau, donc déjà elles sont couvertes parce qu'il fait pas très chaud, et puis parce que elle se promène pas en short comme ça. Donc voilà, on descend la vallée, un village, deux villages, on redescend le long d'une rivière, un petit bout de route, on redescend le long du cours d'eau, un virage, une falaise, un autre virage, un autre village, et puis je commence à dire à Lucine, mais
C'est quand on arrive
On arrive dans combien de temps? Combien de kilomètres? Et j'ai faim, je suis fatiguée. Et donc, il me dit, on passe derrière cette colline-là, derrière, il y a un autre village, après, il y a un gîte, c'est dans pas longtemps. Et puis, en fait, les indications, à mon goût, manquent de précision à ce moment-là, et du coup, je trouve que les kilomètres se suivent et ne s'arrêtent plus. Je commence à être fatiguée, à avoir mal aux pieds. Le cours d'eau est plein d'eau. Il y a des moments où il faut carrément traverser dans l'eau. Enfin bref, la nuit commence à arriver. J'en avais vraiment, vraiment super marre. Donc on arrive au bout parce que de toute façon, il n'était pas question qu'on s'arrête. Hein. Personne n'allait venir nous chercher. Donc, c'est vrai que dans ces moments-là, je crois que je deviens pas très, très agréable avec les gens qui m'accompagnent. Mais bon, on arrive au bout de nuit. Et finalement, on a fait 60 bornes. Alors, moi qui m'étais mise en tête qu'on en aurait fait que 50, c'est pour ça que les 10 derniers, c'était l'enfer, quoi. C'était interminable, et puis j'avais
kilomètre compte double.
Ouais, et puis j'arrivais plus trop à courir à la fin, je bougonnais. Alors du coup, je me suis mise loin devant pour pas être trop désagréable. Je me suis mise dans mon coin un peu plus, enfin je sais pas, 200 mètres devant, quoi, à bougonner toute seule et j'en avais ras-le-bol. Et quand je suis arrivée au 4x4 qui nous attendait du coup en bas, les mules avaient été là remplacées par le 4x4, je m'écroule par terre, je jette mes baskets. J'en avais trop marre, quoi. Voilà, c'était le premier vrai jour, en fait. Je me suis dit, bon, voilà, on n'est pas arrivé au bout de la semaine.
Les conditions ne s'améliorent pas vraiment pendant la nuit, on peut le dire. Vous avez même des petites frayeurs, en tout cas, avec un orage qui se fait beaucoup entendre. Et puis, vous dormez, je crois, près du lit d'une rivière. Le lendemain matin, vous décidez quand même de partir pour cette nouvelle étape qui était initialement prévue, en dépit des conditions qui ne sont toujours pas bonnes. Comment est-ce que se passe cette journée du mardi ?
Pas du tout comme prévu, parce que comme tu l'as dit, la nuit, on a bivouaqué, on a essuyé un orage assez violent. D'ailleurs, nos vêtements ont été mouillés dans la tente. C'est pas super agréable. On se lève le matin, mal dormi, évidemment. On ne peut pas vraiment déjeuner parce que tout est mouillé. Donc, on décide de partir quand même. En souhaitant que le temps s'arrange, et puis au bout de 45 minutes d'ascension, au loin on voit que c'est vraiment très très noir, très très bouché, la pluie arrive de nouveau. Donc par précaution, parce qu'il faut rester hyper vigilant en montagne, on décide de faire demi-tour, de redescendre dans la vallée. Et puis il se trouve que dans la vallée, pas très loin, il y a un gîte qui est là, donc on y va. Et puis on a pu y rester, s'y abriter toute la journée. Et donc, ça nous a permis de se reposer aussi, parce que ça faisait déjà 2-3 jours qu'on était en balade. Donc, voilà, on a pu...
Ça, tu le vis bien ou tu ronges ton frein de ne pas pouvoir être sur le terrain à crapahuter ?
Oh non, je le vis bien parce que déjà, bon, j'étais un peu fatiguée de la veille, mine de rien. Et puis, on n'est pas pressé, en fait. On a encore toute la semaine devant nous, donc ce n'est pas grave. Personne ne nous attend spécialement au bout, enfin, si ce n'est mon avion une semaine plus tard, mais on a le temps. Donc, c'est bien aussi de pouvoir profiter de cette petite journée off. C'était pas désagréable.
La journée du lendemain démarre sous de meilleurs cieux, sans mauvais jeu de mots, et va vous faire vivre une étape sur laquelle tu t'es particulièrement émerveillée.
Oui, celle-là, c'était, je pense, la plus belle journée de ma semaine. Alors, c'est peut-être aussi le contre-coup positif de cette journée de repos. Je suis hyper impatiente de partir ce matin-là, il fait hyper beau, pas trop chaud pour autant, et on a démarré vraiment sur des crêtes hyper sauvages, un paysage de nouveau assez lunaire, pas de végétation, des belles crêtes rouges, enfin, et du coup on a profité là de cet endroit pour faire quelques photos, quelques vidéos, c'était super, j'étais en pleine forme, en plus je montais vite. Ce qui n'était pas forcément le cas de Lucine, donc du coup, je l'attends quelques fois. Mais c'était vraiment chouette. On traverse des villages paumés, des belles vallées verdoyantes. Enfin, j'ai adoré cette étape. C'était vraiment super chouette. Et on arrive dans une vallée, là aussi. Enfin, j'en ai vraiment un superbe souvenir. On arrive dans cette vallée au soleil couchant. La lumière, elle est dorée, la terre est rouge et les maisons du village sont en terre rouge. Ça contraste avec la végétation qui est hyper verte. Enfin, c'était super. On a quand même...
Ça donne envie.
Ouais, et on a quand même fait 55 bornes de nouveau ce jour-là. Donc, avec aussi pas mal de dénivelé, hein, au moins, je sais pas, 1500, 2000, je sais pas trop. En fait, je regarde pas ma montre. Mais ça passe vite, on croise des troupeaux de moutons, des bergers, enfin, c'était magnifique, quoi. Des lacs, des cols, des pierres, enfin, j'ai vraiment adoré cet endroit-là, c'était une superbe étape. Et on est accueillis dans un gîte.
Avec en plus un couscous à l'arrivée, quand même, un couscous de manade.
Ouais, c'est ça, on est accueillis dans un superbe gîte où ils nous accueillent avec un, c'est ça, un couscous de malade. Alors, pour le coup, c'est une traversée sportive, certes, mais on ne se laisse pas abattre le soir quand on est dans les gîtes. On est bien nourri. Je ne crois pas avoir perdu de poids sur cette traversée.
Après l'effort, le réconfort, on connaît l'adage.
Ouais. Bah, ça permet de repartir le lendemain plein d'énergie. Ça n'a rien à voir avec la gastronomie du Marathon des Sables. Tout est bien hydraté, à grand renfort de thé à la menthe.
passe ton chemin, le lyophilisé.
C'est ça. Donc, non, c'était vraiment superbe, accueilli comme des rois. C'était une journée au top.
La journée du jeudi, elle est un tout petit peu différente. Les conditions météo sont pas idéales non plus. Est-ce que tu peux nous raconter cette journée-là? Il y a eu un petit coup de chaud aussi avec des chiens que tu as croisés sur ton parcours.
Ouais, on est reparti. Alors, je ne me rappelle plus exactement de tous les noms des cols et des vallées. Mais on est reparti de nouveau en direction du col de Tishkar. On traverse de nouveau différents paysages, tantôt plutôt très bien boisés, des cours d'eau, des endroits un petit peu plus rocailleux, lunaires, des plateaux. Enfin voilà, c'est toujours très varié, on s'ennuie pas, on en prend plein la vue à chaque fois. À un moment, on passe des grandes plaines, et puis effectivement, bon, il y avait des nomades qui étaient là, et puis une meute de chiens. Alors moi, j'ai pas du tout peur des chiens, au contraire, j'aime bien, quoi. Donc, au début, je me dis, oh, c'est cool, il y a des chiens qui se baladent. Sauf qu'en fait, c'était vraiment une meute de chiens à moitié sauvage, et eux, ils appréciaient.
C'est beaucoup moins drôle.
Ils appréciaient pas trop qu'on s'approche de leur troupeau de chèvres et de brebis, parce que les chiens sont pas là par hasard, ils sont là pour faire leur boulot. Et en fait, ils se mettent autour de nous, ils commencent à se battre entre eux, un peu comme des loups qui se battent pour savoir lequel d'entre eux nous croquera les mollets le premier, quoi. Donc en fait, Lucine disait non, mais cela c'est pas.
On en rit, mais ça devait pas être un très bon moment, je pense.
Ouais, c'est ça. Moi, au début, je me suis dit, ouais, ils sont mignons les chiens. Lucine dit non, cela ils sont pas mignons. Vas-y, file ton chemin. On va essayer de pas trop les déranger quand même. Donc, on poursuit comme ça, et puis jusqu'au col de Tishka, où là, on arrive et où on devait bivouaquer. Et puis finalement, ça ne se passera pas exactement comme ça ce soir-là. C'est... Une fois de plus, on a modifié nos plans en deux dernières minutes.
Ouais, vous faites prêter une maison, c'est ça, le destin vous envoie un signe favorable ce jour-là?
Ouais, c'est ça. En fait, on était, donc il y avait beaucoup de vent, il ne faisait pas très très chaud. Installer le bivouac, ça nous inspirait moyen. Et puis, on s'est dit, bon, allez, on va attendre de voir un petit peu comment ça se passe. Il n'était pas très tard, hein, il devait être peut-être 15 ou 16 heures, cette étape-là n'était pas très longue. Donc, du coup, on s'est dit, allez, on descend un petit peu plus bas dans la vallée, on va essayer d'aller manger au chaud quelque part. Et puis, en discutant, en fait, avec les gens qui nous ont servi à manger... on leur dit que nous on cherche un endroit pour bivouaquer, mais que bon, on n'est pas plus motivé que ça ce soir. Et puis il y a un jeune homme super gentil qui vient nous voir et puis qui nous propose sa maison. En fait, il nous dit, bah moi je suis en train de construire ma maison un petit peu plus haut dans la montagne, je vous la prête, c'est de bon cœur, je vous accompagne. Donc du coup il nous accompagne jusque chez lui. Effectivement, c'est une maison qui n'est pas terminée. Il y a un toit, bien sûr. Elle est fermée par des portes une porte et des fenêtres. Il y a un point d'eau et puis c'est tout. Donc super gentil. Il nous apporte même le pain que sa femme avait préparé chez eux. Et puis on s'installe là dans la maison, donc dans une pièce qui sera probablement une chambre par la suite. On installe notre bivouac à l'abri et puis on se prépare à manger là et on passe la nuit du coup à l'abri du vent et de la pluie également, quoi. Enfin, je suis pas sûre qu'il pleuve ce soir, la remarque, mais en tout cas à l'abri du vent. C'était assez cocasse.
Vendredi, direction la vallée d'Ourika, que j'espère vous avez trouvé. Vous en mettez plein les yeux avec la végétation exceptionnelle et puis le plateau du Yagour qui est aussi... très chouette. Est-ce que tu peux nous parler du décor qui vous a été offert ce jour-là et puis aussi d'un site particulièrement remarquable sur lequel vous êtes tombé?
Oui, c'était de nouveau une journée très différente. On a traversé une belle vallée et puis c'est au mois de septembre, c'est la saison où les noix sont prêtes à être récoltées. Donc on passe au milieu des noyers où les gens récoltent toutes leurs... tous les fruits, quoi. Donc tout le monde est dehors, c'est l'occupation de tous les villageois qu'on croise, donc c'est assez chouette, les enfants mettent la main à la pâte, enfin tout le monde est dehors, c'est plutôt intéressant et chouette à à découvrir. Et puis ensuite, on a une longue ascension sur une colline assez, assez boisée. C'est assez long. Et puis là, moi, je prends de l'avance. Souvent, quand ça monte, je prends de l'avance. En fait, je suis un petit peu plus rapide que Lucine. Donc, on suit cette piste-là jusqu'à un premier village. Et puis ensuite, on arrive sur le plateau de Viagour. J'ai adoré cet endroit. C'est magnifique. C'est très, très vaste. C'est une région où il y a beaucoup de nomades, qui viennent avec les troupeaux à la belle saison pour faire paître toutes leurs petites bêtes, quoi, les chèvres, les moutons, etc. Et en fait, à cet endroit-là, moi, j'étais épatée. Il y a des gravures rupestres qui sont pas du tout protégées. D'ailleurs, on peut les toucher, on peut marcher dessus. C'est magnifique, c'est très très grand et c'est étonnant. On distingue très très bien les formes d'animaux qui ont été gravées là il y a des millions, des milliards d'années. C'est assez bluffant. Et puis ce plateau-là, il est très très vaste. Enfin, ça offre encore un décor tellement différent, avec des belles falaises. On a l'impression de traverser plusieurs pays en une seule journée, en une seule semaine, quoi. C'est vraiment top. Et puis au terme de cette nouvelle étape, on arrive effectivement dans la vallée d'Ourika, où là, c'est très touristique, il y a beaucoup de monde. Ça me fait
pas facile de se remettre dedans.
Ça me fait pas trop plaisir, ouais, de voir autant de monde d'un coup. Moi, j'étais bien perdue dans ma montagne. Avoir 3-4 bergers de temps en temps, ça me suffisait. Mais voilà, on arrive ici et puis là, on a de nouveau un appartement, enfin un hébergement pour se mettre à l'abri le soir et
une douche quand même, c'est précieux dans ce moment-là.
Ouais, une douche, effectivement, parce que finalement sur toute la semaine, on n'aura pas eu beaucoup des vraies douches. Après, moi, ça me gêne pas trop, je fais autrement, mais c'est vrai que là, on est dans un bel appart, on cuisine bien, on se lave bien, on rince notre linge, on se repose. Je commence à soigner quelques blessures au pied en particulier.
Les ampoules,
voilà,
ouais.
C'est ça. Mais bon, ça fait du bien.
Il y a des bons côtés quand même à
ouais,
tout ça.
Ouais, quand même.
Le lendemain, c'est la journée du samedi qui s'avérera être finalement la dernière journée de votre projet de traversée. Est-ce que tu ressens déjà de la nostalgie à l'amorce de cette journée? Puis voilà, est-ce que tu peux nous projeter sur la façon dont elle s'est...
Ouais, c'est effectivement la dernière journée. Donc on retourne dans la région que je connais assez bien. Est-ce que c'est la fatigue accumulée? Est-ce que c'est le fait de sentir que la fin de l'aventure s'approche ou quoi? J'ai beaucoup moins apprécié. C'était une belle journée, mais le moral flanche et du coup. Ça m'a un petit peu gâché la journée parce que moi-même, j'ai pas forcément été très agréable et c'est dommage. Avec le recul, je culpabilise un peu. C'est pas cool, mais voilà, j'étais pas forcément de bonne humeur parce que je pense que j'étais trop triste que la fin approche. Néanmoins, j'étais contente de retrouver des endroits qui m'étaient familiers. On a une très très grosse ascension pour monter jusqu'à un col. Qui m'a rappelé plein de bons souvenirs parce que la dernière fois que j'étais montée jusque-là, c'était dans le cadre d'un stage de trail, une fois de plus avec Nathalie Mauclair d'ailleurs, et puis quelques amis qui sont restés de bons amis depuis. Donc j'arrive là-haut, Lucine était loin derrière parce qu'il montait tranquillement. Donc en fait, là-haut, je me suis assise, profité du paysage, et puis je me suis même à moitié endormie au soleil en attendant qu'il arrive. Et la descente se fait tranquillement jusqu'à Imlil et jusqu'au gîte qui du coup sonnera la fin de notre traversée. Donc on fait ça tranquillement, mais moi personnellement, c'est vrai que je suis déjà trop triste. Fière et à la fois trop triste.
Vous décidez donc le lendemain de ne pas vous relancer pour une nouvelle étape. Et la dernière ascension qui était prévue ce jour-là, c'était un mont que vous connaissiez et que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir ce que tu disais. Au moment où tu comprends que c'est la fin de cette aventure, c'est quoi le sentiment qui prime. Il y a de la tristesse, tu l'as évoqué. Il y a aussi, j'imagine, beaucoup de points de satisfaction.
Eh bien, oui, parce que déjà, je me suis dit, mais en fait, j'y suis arrivée. J'ai fait tout, tous ces kilomètres, toutes ces journées. Et puis...
On n'en a pas parlé, mais physiquement, tu n'as pas souffert en plus. Il n'y a pas eu de dommages particuliers.
Non.
Tu n'as pas été marqué de façon importante, hormis les petites bobologies avec tes ampoules.
Ouais, c'est ça. Et encore, les ampoules, je les ai traitées à ma façon, en fait. Donc, j'ai pas souffert. Ça ne m'a pas du tout gêné. Ça ne m'a pas du tout empêché de courir. Donc, je n'ai pas eu de courbatures. Pas de chute, pas de blessure. Physiquement, franchement, j'étais plutôt épatée parce que, comme j'ai pu le dire un petit peu plus tôt, j'étais pas spécialement préparée à faire autant de kilomètres en montagne. Donc, c'est vrai que je pense quand même avoir un physique assez robuste parce que ça passe, quoi. Donc, plutôt contente de ça, être fière d'y être arrivée. J'ai surtout envie de programmer la prochaine échéance, le prochain voyage, le prochain retour.
Tu es tout de suite dans le projet suivant. Tu as besoin de ça, de tout de suite te relancer sur autre chose.
C'est ça. Moi, j'ai souvent besoin de savoir quand sera le coup d'après. Pas forcément savoir quel sera le coup d'après, mais quand est-ce qu'il sera pour pouvoir... Pour pouvoir avancer, j'ai besoin de projets, quoi. J'ai besoin de pouvoir d'avoir un petit peu de visibilité en termes de timing. Donc ouais, je suis hyper contente de retrouver les gens au gîte. Comme tu le disais tout de suite, on renonce à la dernière ascension jusqu'au Toubkal parce que c'est une ascension qu'on a déjà faite. Alors moi, je l'avais déjà faite une fois et Lucine, je crois qu'il ne les compte plus. Ça se compte peut-être en dizaines de fois. Et puis, comme on a, entre guillemets, perdu une journée le mardi à cause des orages, finalement, le dimanche, on préfère se garder cette journée de repos, pour se récupérer, profiter de la vallée et puis des gens qui nous accueillent pour ce dernier week-end.
Est-ce que cette expérience, elle a été à la hauteur de tes attentes et de l'idée que tu t'en faisais ?
Ouais, tout à fait. C'était aussi riche et aussi varié que ce à quoi je m'attendais. C'était parfait en fait. C'était cadré parce que c'est nécessaire. On part pas complètement à l'aventure en montagne. Il faut rester très vigilant et humble face aux éléments. Donc on avait quand même des points de repère pour les nuits, pour les repas, etc. Mais on avait laissé cette part de liberté qui nous permettait de profiter des endroits, de s'arrêter parfois et puis de faire face aux aléas. Donc ça, c'était vraiment parfait. Et puis au niveau de l'aventure humaine, du partage, c'était parfait. J'ai eu ma dose de liberté, j'ai eu ma dose de calme et de repos, malgré l'effort physique. Pour moi, en fait, c'était très reposant. Intellectuellement, je pense, ça me permet de remettre les compteurs à zéro et de repartir après sur des choses nouvelles. C'était parfait.
Question difficile. S'il n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de cette aventure ou celle que tu as retenue ? Une seule.
Elle est difficile cette question. Je pense que c'est l'arrivée à Tirza, donc la vallée dans laquelle on a fait notre arrivée le mercredi. Ce soleil rasant, toute cette végétation, c'était éclatant de couleurs et je me sentais hyper bien. Je pense vraiment que cette journée, elle aurait pu durer encore. Elle aurait pu durer vraiment, quoi. Et je pense que ce jour-là, j'aurais pu continuer de nuit. Enfin, j'étais en forme, j'étais bien, j'étais sereine. Tout allait bien et c'est vraiment, en y repensant, ça m'apaise. C'était
un moment de plénitude totale.
Tout à fait. C'était parfait.
Merci beaucoup, Solène. On va parler maintenant un tout petit peu d'avenir. Est-ce que tu as les idées claires sur tes rendez-vous sportifs de l'année 2022? Tu nous expliquais que tu ne planifiais pas non plus à la virgule près ton agenda de course. Est-ce que tu as déjà quand même des idées un peu claires sur ce que tu as envie de faire ou ce qui est déjà acté pour les mois à venir?
J'espère et je travaille activement pour pouvoir participer au Marathon des Sables une seconde fois en 2023.
J'allais te poser la question, ouais.
Ouais, donc là, il faut que je trouve le moyen d'y aller. Je suis en plein dedans. J'aimerais beaucoup, beaucoup retourner pour prendre ma revanche, pour pouvoir la refaire en un petit peu
le
plus zen.
Le top 10.
Ouais, top 10, sans prétention. Et surtout en beaucoup plus zen. Je vais essayer d'y aller sans mettre la pression que j'avais pu me mettre cette année. C'est un petit peu dommage.
J'espère secrètement y être aussi, mais chut.
Ouais, chut.
J'espère aussi.
Travaillons-y ensemble.
Retourner en 2023.
Voilà, sinon rien de précis.
Beau programme. Et à plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi, une espèce de rêve de gosse ou un graal absolu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être lié à la course ou un peu différent, en tout cas dans un cadre sportif? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais absolument réaliser ou pas particulièrement?
Alors j'ai quelques projets. Alors j'ai une amie qui m'attend de pied ferme en Norvège et qui m'a déjà d'ailleurs préparé une petite traversée dans le parc national de Rondane. Donc j'avais prévu de faire ça en autonomie, donc elle m'assurerait mon assistance un petit peu comme j'ai pu le faire là dans le Haut Atlas, mais en version un petit peu plus froide.
Donc ce serait l'hiver?
Non, parce que moi j'aime pas le froid. Donc déjà la Norvège l'été pour moi ce sera assez froid, je pense. Donc ça c'est pas encore programmé, mais je souhaite le faire.
C'est dans ta tête. Ouais.
Le Népal est une région qui me fait rêver depuis que je suis petite, donc j'aimerais beaucoup trouver l'occasion d'aller y chausser les baskets aussi. Et puis, j'ai un ami également qui m'attend à La Réunion depuis quelques mois, quelques années. Et puis, voilà. Donc, c'est, on va dire, trois périples que j'aimerais beaucoup programmer dans les quelques mois ou les quelques années à venir. Et puis retourner courir au Maroc parce que c'est un pays qui m'est cher. Déjà pas mal. Après,
beau panorama et belle perspective.
Ouais, c'est ça. Bouger. De toute façon, bouger. Sinon, moi, si je bouge pas, je meurs. Donc, j'ai des projets, mais rien n'est encore arrêté en termes de timing. Ça va se faire.
Je te propose de conclure cet épisode, Solène, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une citation, une devise qui t'est particulièrement chère et qui illustrerait ta philosophie de vie, ton état d'esprit?
Oui, alors j'en ai plusieurs, mais celle qui, je trouve, résume à peu près bien ma vie et toutes mes contradictions, c'est « La vie, c'est comme une bicyclette. Pour ne pas perdre l'équilibre, il faut continuer à avancer. » C'est un petit peu ça, c'est que moi j'ai besoin de projets pour pouvoir avancer, sans ça je perds un petit peu l'équilibre, et puis cette notion d'équilibre elle est ultra présente aussi au quotidien, jongler entre la vie professionnelle, les projets sportifs, la vie de famille, et puis tout ce qui fait notre quotidien. C'est pas toujours évident, ménager la chèvre et le chou, je trouve que cette citation est assez,
appropriée pour toi.
Appropriée, exactement.
Merci Solène, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre avec toi cette traversée du Haut Atlas qui a été un moment très fort en émotion, on a pu le comprendre, et puis qui a été particulièrement marquant de ta vie. Là aussi, on comprend très bien pourquoi. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans toutes les sphères de ta vie là, que tu viens d'évoquer. Évidemment, ta vie personnelle, parce que c'est le point d'ancrage principal. Et puis, beaucoup d'accomplissements aussi dans tes projets sportifs à venir. On a compris qu'ils allaient être nombreux. Et puis, j'espère aussi, beaucoup plus égoïstement, on aura le plaisir de se recroiser très bientôt, notamment au Marathon des Sables ou ailleurs.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Guillaume.
À très bientôt, Solène.
À bientôt.
Merci encore pour nos échanges.
Merci.
Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.